On a dit que c'était la devise du Québec. Cet après-midi, j'aimerais vous amener à la devise de Québec, de la ville de Québec. C'est-à-dire, dis donc, il est vraiment venu pour faire la promotion du Québec, le bonhomme. Pas du tout, parce que je m'en garderai, c'est trop risqué. C'est risqué pour vous. Non, c'est pas risqué. C'est un pays très attachant, un peuple très attachant, et un froid très pénétrant. Mais on peut vivre avec, quand même. Autant j'étais fasciné par cette devise, je me souviens, qui a une connotation très biblique pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, on l'a souligné ce matin. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, il y a une petite feuille pleine de notes de ce matin et du message cet après-midi, qui est mise gratuitement à votre disposition, à côté du CD qui lui est à vendre et les livres. Mais bon. Et je trouve fascinant la devise de notre ville, de ma ville, qui est Don de Dieu ferait valoir, en vieux français avec un Y, évidemment. Don de Dieu ferait valoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est surprenant qu'une ville ait adopté une devise pareille. Alors, la petite histoire, c'est très simple, si on veut. C'est qu'en 1608, tout le monde se souvient de 1608? Ouais. Monsieur Samuel de Champlain, un bon français bien de chez nous, sous les ordres de monsieur Dugas-Demont, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que ces messieurs avaient sûrement des origines plus ou moins, ou en partie, huguenotes. Intéressant. Sont partis, du moins Samuel de Champlain est parti de Honfleur vers la Nouvelle-France où il allait fonder la ville. Il a fondé la ville de Québec en 1608. Et la particularité, c'est que le nom de son bateau, qui était affrété par des armateurs protestants, décidément, on s'en sort pas, c'est intéressant aussi, s'appelait Don de Dieu. C'était le nom du bateau. Il faut le faire quand même, il fallait y oser, il fallait y penser. Avoir un bateau qui s'appelle Don de Dieu. Alors on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait derrière ça. Quoique à l'époque, les gens qui allaient là-bas, c'était beaucoup des missionnaires catholiques qui allaient là-bas pour évangéliser, pour faire parler français aussi. Il y avait toute cette connotation de Nouvelle-France. Hein, on voulait favoriser tout ce qui était français pour le meilleur et pour le reste. Mais quand même. Alors oui, le Québec a un héritage chrétien, catholique, beaucoup catholique, avec beaucoup de bonnes choses et puis d'autres choses, comme tout ce qui est humain, entaché de, malheureusement, de dérives, on va dire. Mais du coup, on a adopté, il y a longtemps de cela, aujourd'hui, où c'est un État laïque, puis comme en France, où ce qui est religieux, de près ou de loin, ça fait peur à tout le monde. Alors, on ne sait pas trop, je me demande combien de temps ça va rester, mais c'est encore la devise de la ville de Québec, « Don de Dieu ferait valoir ». Et quand je vois, quand je passe devant l'hôtel de ville, c'est comme si Dieu me parlait et me ramenait à une vérité extraordinaire. C'est que finalement, ma vocation, ma raison d'être en tant d'être humain, c'est de faire valoir, quelque part, le don de Dieu. Le don de Dieu qui est quoi? J'aimerais vous amener à partir de là. Oui, pardon, ça c'est une reproduction du bateau, bon, voilà. Et ça, en passant, c'est pour vous montrer que ça c'est une gravure prise dans les catacombes qui datent probablement du 1er siècle ou par là. Et peut-être ne saviez-vous pas, mais avant que la croix ne devienne le principal symbole chrétien, là je ne réinvente pas la doctrine, je parle de faits historiques, la croix n'a pas toujours été le symbole de la foi chrétienne. Dans les tout premiers siècles, il y avait le poisson, il y avait la colombe et il y avait souvent le bateau et le symbole représenté. Les croyants, les chrétiens, qui, malgré les tempêtes, l'hostilité du monde ambiant, etc., le bateau allait arriver à bon port. Alors c'est intéressant ce mélange. Alors je pense à notre bateau de M. de Champlain, là, je fais un petit peu le lien. Et ça m'amène au verset, au texte, à la diapo suivante, qui est notre texte, notre point de départ, si on peut dire. Quel verset? Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous l'avez forcément entendu prêcher bien des fois, probablement. C'est Jésus qui dit à la femme samaritaine, à laquelle il a eu l'humilité de demander qu'elle lui donne à lui à boire, lui qui est le créateur de l'eau et du monde. Et il va lui dire cette parole étonnante, il va dire, si tu savais quel est le don de Dieu, le cadeau de Dieu, dit cette version, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais quel est le don de Dieu. C'est curieux comme expression dans la bouche de Jésus. D'un côté, il est en train de souligner que, visiblement, il y a des choses qu'elle ne sait pas, qu'elle a besoin de découvrir, si tu savais. Et en même temps, c'est rempli d'espoir. Ça donne envie d'en savoir. Ça donne envie de venir boire. Hein. Si seulement tu savais, si tu savais tout ce que Dieu a en réserve pour toi, si tu savais à quel point il t'aime, si seulement tu savais, alors tu ferais valoir le don de Dieu. Nous y voilà. Quel don ? Ben, clic suivant. Il y a déjà le don de la vie. J'aime cette parole d'Actes 17 qui dit, où l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. J'aime beaucoup cette expression, la vie, le mouvement et l'être. Quelqu'un soulignait, disait, la vie, ça fait penser à l'enfance. Ce matin, il y en avait beaucoup, il y en a aussi cet après-midi. Plein de vie pétillant, là, ça court dans tous les sens, et c'est tant mieux. De grâce, laissons-leur de l'espace et de l'air. Il y a un temps pour tout, il faut un peu de discipline. Mais je veux dire, des enfants, il faut qu'ils soient des enfants, oui ou non. J'allais dire le plus longtemps possible, ça dépend, mais il faut qu'ils soient des enfants. Et après, Jésus va nous dire de redevenir comme des enfants à certains égards. Mais bon, la vie qui arrive, qui s'épanouit, le mouvement, ça fait penser, la vie est un mouvement, on déménage, on travaille, le travail, on est toujours en mouvement, les jeunes adultes, et puis la trentaine, et puis la quarantaine, on est toujours en train de travailler, et puis toujours des objectifs, des choses. C'est comme ça, c'est trop comme ça, mais c'est comme ça. La vie, le mouvement, on est aspiré là. Et puis l'être. À un moment donné dans la vie, sans doute passé la cinquantaine pour la plupart d'entre nous, on réalise qu'avoir, comme dirait Yves Duteil, il y a avoir et être. Hein, parce que vous connaissez la magnifique chanson, mais elle est belle. Et que ben, la vie ne se résume pas par le verbe avoir, mais qu'on a beaucoup besoin d'apprendre à être aussi. Être. Être enfant de Dieu. Être tout ce que Dieu veut que nous soyons, pas juste avoir, le don de la vie. Et dans le livre de Job, cette parole magnifique, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il n'était pas pentecôtiste, hein. On est bien avant la Pentecôte, on est bien avant Jésus-Christ, on est loin, loin dans le passé. Mais cet homme était conscient d'être, que sa vie était la vie de Dieu en lui. Et dans un sens, tout être humain, existe et n'existe que parce que la vie de Dieu est en lui. Et le texte continue. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, ben on serait mal barré. Pardon, c'est pas dans le texte en hébreu, mais si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Il n'y aurait plus rien. Dieu nous, on n'est pas comme une toupie, vous savez, une toupie, vous vous rappelez, c'est revenu à la mode. Hein. Une toupie, on tire et puis ça tourne là. On la regarde tourner. On l'a lancée, on lui a donné une impulsion. Puis après, on la regarde mourir jusqu'à ce qu'elle tombe. Mais la vie, ce n'est pas ça du tout. Dieu ne nous a pas lancés comme une toupie pour nous regarder mourir et tomber. Il nous soutient. L'apôtre Paul dira en Colossiens aussi que en Christ, Christ soutient toute chose. L'univers entier, s'il enlève sa main, s'il enlève son souffle, tout disparaîtrait, tout s'écroulerait. Que vous soyez chrétien ou non, quelle que soit votre religion ou non-religion, vos convictions ou non, vous avez reçu un don de Dieu. Ça s'appelle la vie. Quelqu'un a dit « rien ne vaut la vie, mais la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie hein ». Ça, c'est très humain aussi. Mais rien ne vaut la vie quand on réalise qu'elle est un don de Dieu. Comment on va la faire valoir ? Ben en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie ? Si tu savais quel est le don de Dieu, la vie qu'il t'a donnée, alors tu la vivrais pour lui et avec lui, en comptant sur lui. Et pourquoi pas aujourd'hui, hein ? Que de suicides, que de pensées de mort au Québec, c'est une calamité, plus encore, je pense, qu'ici. Et parmi les premières nations, les autochtones ou les indiens, comme on dit, qui vivent dans des conditions très difficiles, qui ont beaucoup de mal à s'adapter à notre vie moderne, dite moderne, il y a beaucoup de suicides de jeunes. C'est une horreur, c'est quelque chose de terrible. Mais ce n'est pas juste là. Ça devient... c'est évident, ça va avec la mentalité de notre société d'aujourd'hui, où on banalise la mort et où on perd tout sens de valeur de la vie. Quelle tragédie, quel drame, et que de drames qui brisent des familles entières pour des vies entières. Si tu savais quel est le don de la vie, tu ne penserais pas, jamais tu n'irais jusqu'au bout de t'en défaire, parce qu'elle est un don de Dieu. Deuxième don de Dieu, clic suivant, bah c'est le don de la Bible. Hein. Jésus dira, les cieux, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et l'apôtre Paul dira, toute l'écriture, toute la Bible, hein, c'est tout un sujet en soi, mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile, on en a besoin. Dieu nous a fait un cadeau incroyable. Ce n'est pas toujours facile, la Bible. Ça soulève beaucoup de questions, soyons honnêtes. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible. Mais il y a tellement de choses. Un jour, quelqu'un a dit, ce qui me gêne dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, mais c'est ce que je comprends. À méditer. Parce que ce que je ne comprends pas, ma foi, je me sens moins redevable de le mettre en pratique. Je ne comprends pas comment, qu'est-ce que je fais avec ça. Mais mes amis, lisez les paroles de Jésus, vous allez voir que vous allez être encombrés de choses que vous allez très bien comprendre. Et vous allez avoir besoin de tout son secours pour les mettre en pratique, mais vous pouvez compter sur lui, parce qu'il est un Dieu de grâce et il nous donne les moyens de faire ce qu'il attend de nous. Lisez le sermon sur la montagne ou les 10 commandements, et la seule réaction, la seule réponse sensée, c'est de se jeter à genoux devant lui et dire « Seigneur, je suis foutu, j'ai besoin de toi, je suis incapable ». Tant que vous allez dire, ah ben oui, heureux ceux qui ont le cœur doux, car ils hériteront la terre. Hein. Tant que vous allez penser que, ah ben ok, cette semaine je vais être doux, allez, je vais m'y mettre. Vous allez perdre votre temps et celui des autres. Et Dieu va attendre que vous vous calmiez et que vous lui disiez, Seigneur, doux, mais je ne suis pas capable d'être doux de ta douceur, bon de ta bonté, il faut un miracle. Ah ben alors là, on est en marche. Là, Dieu va vous accompagner, vous aider. Et c'est ça le but de la parole de Dieu, c'est de nous amener toujours plus à plier le genou devant lui et dire « Seigneur, il faut qu'on le fasse ensemble, sinon on n'ira pas loin. » Mais le don de la Bible, comment faire valoir le don de la Bible? En la lisant, ne lisez pas tout à la fois, de grâce, n'en lisez peut-être pas trop. Vous ne savez pas par où commencer? Demandez à votre pasteur, ce sera une musique à ses oreilles. Quelqu'un qui veut, je veux dire, ça nous ramène à la source de la foi et de l'essentiel de lire la Bible. Ça devrait être peut-être, selon moi, un des sujets de préoccupation les plus qui nous absorbe le plus. Comment mieux rencontrer Dieu par sa parole? Il n'y a rien de plus fascinant et inépuisable comme sujet. Surtout quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Clic suivant. Le don de Dieu ferait valoir. Si tu savais quel est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand ça fait 50 ans qu'on connaît ce verset, on a du mal à le lire avec émotion. On a du mal à se laisser bousculer. Et pourtant, remarquez qu'il n'est pas dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Bien sûr qu'il l'a envoyé, mais il n'a pas fait que l'envoyer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a commissionné son Fils. Il a donné un message pour nous. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas vrai. Souvent, j'entends dire, l'évangile. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Mais non. L'évangile, c'est arrêter de faire semblant d'essayer de vous aimer les uns les autres. Vous n'en êtes pas capable. Mais réalisez que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils et qu'il n'y a que lui qui peut faire de vous et de moi une nouvelle créature pour qu'on puisse commencer à apprendre à s'aimer les uns les autres. Hein. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même, mais j'aime tellement cette parole de 1 Jean 4, 17, ou par là, qui dit « Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier ». C'est lui la source. Et ensuite, on peut devenir les canaux de cet amour vers ceux qui nous entourent. Faire valoir le don de l'amour de Dieu, lui qui a été jusqu'à donner son propre Fils. Et Paul dira que Dieu soit remercié pour son don ineffable, c'est-à-dire incomparable, inexprimable, indescriptible, indicible. Christ. Ce matin, on a chanté Christ au centre de ma vie, hein, que ma vie soit centrée sur Christ. Un jour, un homme, grand penseur chrétien, philosophe, mathématicien, et puis il y a des cerveaux comme ça qui me dépassent, hein, qui s'appelait Blaise Pascal, qui a écrit des paroles tellement fortes sur la personne de Jésus. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ni ce qu'est notre vie, ni ce qu'est notre mort, ni qui est Dieu, ni qui nous sommes nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, la Bible, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu comme dans notre propre nature. Merci Seigneur pour le don de la Bible et le don de Jésus-Christ. Et puis on passera à la diapo suivante, parce que j'ai été trop bavard. On va aller directement à la suivante. À la suivante, qui suit la suivante. Voilà, merci. Il nous a donné son esprit. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit seulement nous fait des dons, mais le Saint-Esprit lui-même a été donné. C'est quand même fou. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu se donne tout entier. Hein. Et il est dit que si nous nous repentons, se repentir, ce n'est pas juste s'excuser. Hein. C'est demander pardon, c'est réaliser notre misère. Et chaque fois que nous le faisons, parce que ça arrive qu'on ait besoin de le refaire, oui ou non, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez rien de moins que Dieu lui-même, le don du Saint-Esprit. Et la Bible continue en disant qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Rendez compte, ce lieu est magnifique. Chapeau et bravo à tous ceux qui ont travaillé fort. Pour qu'ils soient, moi, je trouve ça, c'est tellement lumineux et agréable. Mais le temple, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Notre église, dans la ville de Québec, on est à peu près 400 le dimanche. Et il y a un an et demi, un samedi soir, surprise. Enfin, la surprise, ça a surtout été le dimanche matin. Un incendie a ravagé tout le bâtiment. Et le lendemain matin, les gens sont arrivés et ils ont découvert que ce que le feu n'avait pas brûlé, l'eau avait noyé. Quoi. Il n'y avait plus rien d'utilisable. Perte totale, comme on dit. Et ça a été un drame, mais une bénédiction déguisée, parce qu'on était déjà en processus de relocalisation. Et Dieu a permis que du mal, il en sorte du bien. Là, on serait mis dans un grand cinéma. C'est une belle occasion d'évangélisation, de partager la bonne nouvelle. Et puis, on est en projet de reconstruction, mais ce n'est pas une mince affaire. Et que Dieu soit béni pour le don de gens compétents pour réaliser des projets comme ça. Alors, mais le bâtiment, ce n'est pas l'église. C'en est un rappel douloureux. Beaucoup de gens avaient été baptisés là, leur vie avait été reconstruite en entendant l'évangile dans ce bâtiment. Et ils se sont mariés, ils ont présenté leurs enfants au Seigneur, ils ont peut-être eu même des obsèques qui sont passés par là. C'était quelque chose. Pour eux, ils étaient attachés à ce bâtiment depuis 40 ans. Mais mes amis, c'était beau de voir, même le dimanche après, j'étais bouleversé de voir la réaction des gens réunis dans un autre lieu, puis ils étaient là pour louer et célébrer le Seigneur. Parce qu'ils savaient, ils avaient compris, avec douleur. C'est un deuil. On s'attache aux choses. Hein. Mais ils avaient compris que le don de Dieu, c'est d'être le temple, nous, le temple du Saint-Esprit. Qu'on se réunisse dans un bâtiment d'église, dans un gymnase, dans la rue ou autre. Il y a des endroits où c'est plus pratique que d'autres, c'est clair. Mais ce n'est pas l'essentiel, quoi. Hein. Le don de Dieu, le Saint-Esprit qui est capable de nous transformer à l'image de Jésus. La vie devient passionnante. La vie devient merveilleuse. Et ça m'amène à mon dernier clic, enfin presque. Le don de notre mission. Hein. J'ai envie de dire le don de vous, le don de moi, à faire valoir. Vous êtes un don pour l'humanité. Allez donc, j'ai pas l'impression. Si vous me connaissiez. Moi, je suis du genre complexé, je suis du genre à me rabaisser moi-même, à être très négatif envers moi-même, croyez-le ou non, je sais pas. Et heureusement que j'ai l'épouse que j'ai pour contrebalancer tout ça, pour me ramener un peu de lucidité. Mais j'ai besoin de me rappeler souvent que si je suis vivant, et tant que je suis vivant, je suis en mission. J'ai une mission. Je ne suis pas missionnaire, mais je suis en mission. J'ai quelque chose à faire, quelque chose à accomplir pour être une bénédiction pour ma famille, pour les gens que je côtoie aujourd'hui, pour ceux que je rencontrerai demain, que j'ai choisi ou non de les rencontrer selon l'endroit et les circonstances. Mais peu importe, à chaque pas de ma vie est une mission et vous êtes en mission. Spécial d'y penser comme ça. Hein. Si souvent on se sent inutile et puis on dit « moi je ne sers à rien du tout ». Comment ? Vous avez un enfant à la maison et vous ne servez à rien du tout ? Vous êtes en train de façonner une vie, vous êtes en train de construire une destinée en élevant votre enfant. Vous ne servez à rien ? Vous êtes inutile ? Oh, vous avez peut-être besoin d'aide, mais vous êtes un don de Dieu pour votre enfant, ou pour vos parents, ou pour la personne dont vous êtes un aidant naturel, comme on dit, ou autre. Hein. Et où que vous travaillez, et où quoi que vous fassiez, osez croire hein, que Dieu est capable d'en faire votre champ de mission, même si vous ne pouvez pas parler la bouche ouverte. Oui, en principe, c'est ça. On appelle ça un pléonasme. Même si vous ne pouvez pas parler ouvertement, c'est mieux. C'est dommage, c'est frustrant, mais ce n'est pas grave. Le sel, ça ne fait pas de bruit. La lumière non plus, hein, comme j'aime me le rappeler moi-même. Et quelqu'un a dit, le bien ne fait pas de bruit. Et le, bien ne fait pas, et le bruit ne fait pas de bien. Ça, c'est vrai aussi. Mais c'est une autre histoire. Le don de notre mission. Hein, l'apôtre Paul disait, j'aime cette parole, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Moi, je ne peux pas en dire autant. Je m'aime bien quand même. J'aime bien me soigner. Mais c'est une leçon pour moi. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma mission, ma course avec joie, et le ministère ou le service que j'ai reçu d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre ajoute, chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il l'exerce au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. On est tous en mission de service. C'est quelque chose, hein ? Notre vie a un sens parce que Dieu est au commencement. Notre vie a un sens parce qu'il a donné son Fils pour nous. Notre vie a un sens parce qu'il nous a donné sa parole et parce que son Saint-Esprit vit en nous. Il y a une belle chanson de Julien Clerc qui dit « Je veux être utile à vivre ou à chanter ». Bon, on peut faire plus que chanter, mais si on vit, on va forcément, d'une manière ou d'une autre, Dieu pourra se servir de nous. Et il n'a même pas besoin de nous dire comment et de nous le montrer. Vous savez, quand on fait du bien autour de soi, c'est bien quand on ne le sait pas toujours. Quelquefois, c'est bien que ce soit tellement anonyme que même nous, on n'en est pas conscient. Ça, c'est pas mal. C'est pas grave que vous ne le sachiez pas. C'est même pas grave que les autres ne le sachent pas, pourvu que ce soit fait, pourvu que le bien soit fait. Et avant de conclure, je vous laisse un verset magnifique dans le psaume 37 que j'ai lu juste il y a quelques jours et qui n'est pas dans mes notes. Parce que j'ai des notes, on dirait pas, mais je me promène. Mais psaume 37, verset 3. Ces jours-ci, il me travaille, ce psaume. Je ne sais pas vous. Je trouve que le meilleur compagnon de la Bible pour m'aider à la méditer, c'est les post-it. Alors, j'ai un post-it qui me suit depuis quelques jours. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Confie-lui ta vie. Si tu veux faire valoir les dons de Dieu. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Fais le bien. Oui, mais c'est quoi le bien ? Écoute. Réfléchis un peu, ouvre les yeux, t'inquiète pas, Dieu est capable de te le montrer. Et généralement, ça commence tout de suite là. Ton prochain, ça veut dire le plus proche, ça veut dire la personne suivante que je côtoie et que je rencontre. Pas besoin de chercher trop loin, en général. Et le pays pour demeure, ça veut dire jusqu'à nouvel ordre, là où Dieu t'a planté, c'est là que tu dois porter du fruit. À méditer, hein. Et que la fidélité soit ta nourriture. Pas beau, ça ? Seigneur, je veux être fidèle. Toi, tu as été tellement fidèle que tu as donné ton Fils Jésus-Christ. Alors moi, à mon tour, je veux t'aimer, je veux te servir. Et je veux vivre tout à ta gloire. Don de Dieu ferait valoir. J'ai appris juste il y a quelques jours, peut-être le saviez-vous, que il y a un mot qui est dans le Larousse, qui s'appelle, tout simplement, je ne sais pas s'il y en a qui font du théâtre, un faire valoir. Faire valoir, c'est exactement le même mot, et c'est un sens bien précis, un faire valoir, c'est un peu un second rôle. Vous savez, on donne des prix à Cannes, même au second rôle. Et le rôle du second rôle, c'est de faire valoir le premier rôle, c'est-à-dire pas le sien, mais l'autre. Je trouve ça très intéressant comme image. Le second rôle dans une pièce de théâtre ou même dans un film, c'est quelqu'un qui va avoir toute sa place, mais sans peut-être qu'on s'en rende compte. Il est toujours en train de faire valoir l'autre. Seigneur, si seulement ma vie pouvait être un faire valoir pour toi, parce qu'on s'en fiche finalement que les gens se souviennent de nous. Quelqu'un a dit, un prédicateur disait, si vous me rencontrez et que vous m'oubliez, vous n'avez rien perdu, mais si vous rencontrez, vous entendez la voix de Jésus-Christ et que vous l'ignorez, vous avez tout perdu. C'est pas mal vrai, hein. Cet après-midi, j'aimerais prier le Seigneur avec vous, et d'abord avec mes propres mots, puis ensuite vous inviter à le faire avec moi à travers un chant. Mais si cet après-midi vous êtes de ceux qui disent « ma vie ne sert à rien », vous êtes venu avec le sourire, mais peut-être avec des pensées de suicide, Dieu seul le sait, et vous. Moi, j'ai grandi avec des pensées de suicide quand j'étais adolescent, et j'étais un ado... bien gentil, le petit chouchou à sa maman, bien sage, à l'école et tout ça. Mais à l'intérieur, j'avais plus de pensées de mort que de vie. Alors, j'ai appris à ne m'étonner de rien. Nous sommes tous confus, nous sommes tous en quête, en recherche. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et si seulement cet après-midi, vous pouviez lui dire, Seigneur, je veux faire valoir ce que tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Je te demande pardon parce que j'ai essayé tout seul. Ça n'a pas marché. Ça ne marche jamais, jamais longtemps. Mais Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Je veux devenir un disciple de Jésus. Je ne veux pas devenir une grenouille de bénitier. Je ne veux pas devenir religieux. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre. Je veux devenir un homme, une femme qui marche avec Jésus. Qui soit celle qui apporte la saveur autour de lui et lumière, qui apporte la clarté. Sans se prendre pour une lumière. Oh Seigneur, fais ton œuvre en moi cet après-midi. Et si tu es chrétien, mais que tu as douté, baissé les bras, tu te sens inutile, le Seigneur te dit, fais valoir le don que je t'ai fait. J'ai déposé en toi des dons que tu ignores peut-être même en ce moment. Ose demander à quelqu'un d'humble et de mûr dans la foi, ou un pasteur, un responsable, et lui dire, qu'est-ce que tu penses que Dieu attend de moi? Est-ce que tu as peut-être une piste? Tu me connais, tu me vois aller. Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut faire de ma vie? C'est pas lui de vous le dire, mais il peut vous aider. Être comme un guide, un peu un coach, quelqu'un qui peut vous aider à faire le pas suivant pour entrer pleinement dans les dons de Dieu pour vous. Amen. Père, merci de te révéler dans nos cœurs cet après-midi. Pardon d'avoir méprisé le don de la vie que tu nous as fait, le don de la Bible, le don de Jésus-Christ, le don de ton esprit, le don de notre mission que nous avons souvent négligée par manque de foi, par crainte aussi. Pardon, Seigneur. Et oui, nous voulons faire valoir le don, les dons de Dieu. Le faire en comptant sur toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui en a payé le prix sur la croix. Oh Seigneur, merci de nous préparer cet après-midi à retourner en mission dans nos maisons, dans nos lieux de travail, d'études, de vie, et partout où la vie nous conduira dans les jours qui viennent, au nom de Jésus. Mon Père, je m'abandonne à toi. C'est la prière, c'est un texte qui est tiré d'un homme qui a donné sa vie pour l'Évangile à sa manière, sans faire de grands discours. Et qui a été assassiné, qui était tout à fait vulnérable, on l'a tué. Et on a trouvé dans sa poche cette prière qu'on appelle la prière d'abandon. Avant de chanter trop vite, réfléchissez, parce que c'est une prière qui coûte très cher, qui pourrait coûter très cher. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Alors vous avez eu le temps de peser le pour et le contre, pour savoir si vous êtes prêt à la chanter, si c'est votre prière cet après-midi, peut-être en tremblant un peu, en hésitant un peu, mais si vous voulez oser avec moi, je me sentirai moins seul. Vous pouvez vous lever à votre place. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon père. Je me confie en toi, car tu es mon père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon père. Je me confie en toi, car tu es mon père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon père. Je me confie en toi, car tu es mon père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon père. Je me confie en toi, je me confie en toi, je me confie en toi.
Alléluia, merci Seigneur, nous ne serons pas déçus si nous nous confions en toi de tout notre cœur, de tout notre être. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, pour nos corps que tu guéris, pour nos âmes que tu renouvelles, pour notre courage que tu restaures, pour ta paix que tu répands Seigneur, pour ta force dont tu nous animes, à toi la gloire, l'honneur, la louange. Nous les accueillons, nous le confessons et nous te célébrons pour cela. Merci Seigneur et gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Et si tout va bien, ce soir en faisant la vaisselle ou en allant vous coucher, vous allez entendre un... et vous êtes obligé de chanter, car tu es mon... C'est un peu subliminal, mais ça pourrait être sublime en tout cas. Oh Seigneur, aide-nous à nous abandonner à toi jour après jour. Merci beaucoup pour votre patience et privilège de partager avec vous. J'ai donc le CD et les quelques livres à votre disposition. Et merci encore à votre pasteur en particulier.